Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
On dirait que c'est leur passion de se faire, voilà, de se chercher, de se titiller, de se faire enrager. Plus en fait elle va être dans le conflit avec ses frères et sœurs et susciter le conflit, plus finalement c'est elle qui se fait disputer.
Les rivalités, c'est des sentiments effectivement plutôt de jalousie. C'est un sentiment qui exprime souvent un besoin d'amour.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Caroline,
bonjour Mathilde,
je vous en prie, installez-vous.
Merci.
Alors, qu'est-ce qui vous amène Caroline aujourd'hui ?
Je suis venue parler et chercher des clés sur la meilleure façon de résoudre les conflits entre mes enfants. Mm-hmm. J'ai 3 enfants et il y a pas mal de rivalités entre eux, de jalousie et de disputes. Et j'aimerais en fait retrouver un peu de sérénité et de bienveillance entre eux et un peu moins de disputes, voilà, dans le quotidien.
Ils ont quel âge, vos enfants ?
Alors, j'ai 3 enfants donc, qui ont 10 ans pour ma fille aînée, 7 ans pour ma deuxième fille et 5 ans pour le petit dernier, un petit garçon.
Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand ils se disputent ?
Alors moi, ils se disputent pas vraiment pour parce qu'ils veulent pas prêter leurs jouets ou des choses comme ça. Ils se disputent plutôt, ils se font enrager. On dirait que c'est leur passion de se faire, voilà, de se chercher, de se titiller, de se faire enrager. Donc ça, c'est très fréquent qu'ils essaient de déclencher un peu l'agacement ou la colère de l'autre. Et puis après, il y a beaucoup de rivalités que je trouve un peu malsaines par rapport à nous. Enfin, j'ai l'impression que c'est surtout par rapport aux parents, ils veulent, qui sont en recherche quand même de reconnaissance et de notre attention. Et donc, au passage, ils vont écraser un peu le plus petit en minimisant tout ce qui pourrait être ses petites victoires ou ses petites joies, se couper tout le temps la parole, tout le temps parler avant l'autre ou vouloir briller, se montrer plus, dire que c'est mieux, qu'ils font, qu'ils sont les meilleurs et que l'autre sert à rien et que c'est eux qu'on doit regarder en priorité, quoi. Mmh. Je sais pas si c'est clair, mais c'est beaucoup de rivalité et de jalousie. Alors ils passent leur vie aussi à compter, à mesurer si leur part est la plus grande, s'ils se sont fait avoir, voilà.
Du coup, Caroline, comment vous réagissez quand ça arrive ?
J'ai tendance, je pense, à beaucoup protéger celui qui se... Je dis celui parce qu'en fait, c'est quand même souvent le petit dernier qui a peut-être du mal à exister et à faire sa place et qui est l'objet quand même de pas mal de critiques, surtout de la part de l'aîné, qui est très dur avec lui. Et moi, je pense que j'ai tendance à le protéger, à prendre beaucoup sa défense, ce qui en fait ne fait qu'exacerber, j'ai l'impression, la jalousie de ma grande qui va en faire 10 fois plus. Donc je pense que je suis quand même assez interventionniste, peut-être plus que mon mari qui a peut-être tendance à les laisser un peu se débrouiller tout seul. Bon, en tout cas, je dois pas faire ce qu'il faut faire parce que on a fait à plein de reprises, on a fait un peu des conseils de famille, on les mettait tous les trois autour de la table, on leur disait que c'était pas possible, qu'il fallait qu'ils trouvent des solutions pour se laisser la parole. On avait fait des petits systèmes de pour se passer la parole où ils doivent nous tenir le poignet quand ils veulent parler pour éviter que ce soit la cacophonie, que ce soit celui qui parle le plus fort qui parvienne à occuper l'espace et que les autres soient obligés de se taire. Mais ça tient un jour, deux jours et puis après c'est reparti. Donc, effectivement, il manque sans doute des clés pour mieux gérer ces disputes.
Pour désamorcer plutôt que d'alimenter, finalement. C'est plutôt l'impression que vous avez que dans vos interventions, vous alimentez les conflits déjà présents entre eux.
Oui, alors ouais, effectivement, quand on intervient et qu'on en défend, ouais, généralement ça fait que réactiver la dispute. Mais c'est vrai que je voudrais aussi tout simplement qu'il y ait plus de bienveillance et puis qu'on arrive peut-être aussi mieux à les rassurer sur notre amour pour qu'ils aient pas besoin en fait d'écrabouiller les autres pour exister. Donc je me dis qu'il y a peut-être aussi des choses à faire là-dessus.
Chez vos trois enfants, est-ce que vous diriez voilà, que c'est à tour de rôle, qu'il y en a un qui va être le déclencheur du conflit, ou est-ce qu'il y a voilà, un des enfants qui va davantage voilà, entrer dans le conflit ou écraser ses frères et sœurs?
Oui, on a vraiment notre aînée qui est souvent celle qui déclenche ça. Elle a vraiment un besoin de reconnaissance, d'être vue, d'être aimée, qui est énorme. Et donc, c'est vraiment beaucoup elle qui a la dent vraiment dure, notamment avec son petit frère. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on aurait pu s'imaginer que comme la deuxième est aussi une fille, qu'il y aurait plus de rivalité entre elles. Elles sont toutes les deux en primaire. Elles sont quand même plus mise dans un paquet, je sais pas comment dire.
Voilà, c'est plus proche en âge aussi.
Alors non, les âges sont les mêmes. Il y a 2 ans et demi d'écart et 2 ans et demi d'écart. Mais on aurait pu imaginer qu'il y avait plus de rivalité avec sa sœur et que c'est quand même vraiment avec son petit frère que c'est très dur et qu'elle elle passe sa vie à trouver de toute façon que c'est le chouchou, qu'on l'aime plus qu'elle. Et comme effectivement en âge, bah, c'est sûr que elle s'est plus de choses, elle va perpétuellement minimiser sa parole, ses exploits, se moquer de lui parce qu'il est tout fier d'avoir réussi à additionner. Donc on a beau lui dire que oui, elle est en CM2, donc effectivement elle sait mieux additionner, mais que c'est quand même déjà super de savoir le faire en grande section. Et ben voilà, ouais, on n'arrivera jamais à la convaincre de ça et elle est pas facile.
Qu'est-ce que ça vous fait vivre, vous, en tant que maman, voilà, quand votre aînée, elle manifeste tout ça et elle suscite du coup des conflits au sein de la fratrie?
Moi, je pense que j'ai quand même une réaction un peu presque animale de me dire l'enfant victime quelque part. Moi, j'ai tout de suite envie d'aller le sauver, quoi, ou le défendre. Ou oui, je me place quand même assez systématiquement, je pense, du côté du faible, et ça me fait mal au cœur en fait de me dire que il y en a une qui prend toute la place et que les autres ont pas le créneau pour raconter leur journée, leur petite joie, sans être moqués. Je trouve que c'est hyper dur pour eux. Et après, je ressens aussi un peu, je pense, de culpabilité à pas réussir à ce qu'ils se sentent encore une fois suffisamment aimés pour ne pas avoir besoin de faire ça. Ce qui est assez contradictoire, c'est que notre fille aînée, comme elle est très en demande, je pense que c'est vraiment celle à qui on fait le plus attention à prendre des temps privilégiés, réguliers avec elle, etc. Mais c'est jamais assez. Et parfois, je me dis, mais les autres, ils vont se réveiller un jour ado et ils vont nous dire, non, mais attendez, vous vous êtes occupés que d'elle pendant toute notre enfance. Et nous, on n'avait pas de place. Et franchement, ils n'auraient pas complètement tort, quoi.
Oui, donc elle vous pousse finalement elle vous amène sur un terrain. Vous rendez bien compte que c'est pas tout à fait là où vous voulez aller, quoi. En tout cas, qu'il y a une forme de déséquilibre entre elle et sa sœur et son frère.
Oui, mais en même temps, elle empathie parce que donc elle occupe beaucoup plus clairement d'espace et notre attention. Enfin, depuis toujours, je pense qu'on est très attentif à ce qu'elle se sente bien parce que c'est une petite fille très angoissée. Donc finalement, on est beaucoup plus préoccupé, je pense, par elle que par son frère et sa sœur. Mais là où c'est totalement contre-productif ce comportement, et j'essaie de lui faire comprendre, mais ça marche pas très bien, c'est que plus en fait elle va être dans le conflit avec ses frères et sœurs et susciter le conflit, plus finalement c'est elle qui se fait disputer. Parce que justement, on prend la défense des autres et en fait elle se fait punir. Donc elle trouve ça encore plus injuste, elle nous trouve encore plus méchants avec elle et que les autres sont encore plus chouchoutés. Alors que c'est un peu en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, cette histoire. Donc j'aimerais bien qu'on arrive à sortir de cette, ouais, de ce
fonctionnement.
De ce sacrifice, quoi, ouais. Ouais.
Quand vous punissez votre aîné, c'est quel type de punition ?
Punir, c'est surtout je pense que c'est beaucoup la sermonner, et elle déteste ça. Donc, c'est de lui expliquer qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais punir, c'est plutôt aller dans sa chambre ou. Ça se passe beaucoup pendant les repas, en fait. Donc, finalement, ça va être de finir, de sortir de table et d'aller dans sa chambre et de pas finir le repas ou d'être privé du petit dessin animé du week-end ou de choses comme ça.
Est-ce que votre mari réagit de la même manière que vous ?
En tout cas, ça l'agace tout autant.
En tout cas, vous, Caroline, vous disiez, ça suscite plutôt de la tristesse, de la culpabilité, voilà, l'envie de défendre le plus faible, alors que votre mari, lui, ça l'agace.
Culpabilité, je sais pas. Je pense que ça le peine aussi de voir que ils peuvent pas tous avoir leur place, par exemple dans une conversation à table. Et voilà, il va comme moi vraiment essayer de stopper, de leur dire de parler l'un après l'autre pour que chacun puisse avoir un peu son moment à lui. Après. Sur les petites disputes, il est moins interventionniste parce qu'il leur dit plutôt de se débrouiller entre eux, ce qui est peut-être mieux d'ailleurs. Hein.
Et comment ça se passe quand il leur dit ça ?
Ah, ça, c'est plutôt quand ils disputent pour quelque chose qu'ils cherchent. Soit il va leur dire chacun dans sa chambre et puis vous vous débrouillez, soit vous réglez vos problèmes entre vous et je veux pas en entendre parler. En gros, c'est vos histoires et moi, je veux pas en entendre parler. Pour certaines disputes, quand il y a de la rivalité ou vraiment de la jalousie exprimée notamment donc pendant les repas où chacun donc veut exister plus que l'autre, là non, je pense qu'on a à peu près la même ligne qui est soit de s'énerver, et c'est ce qui est pas très bon non plus, et de finir par crier plus fort parce qu'en fait ça fait un bruit de fou tout ça, donc on finit parfois aussi par crier parce que nous non plus on n'a plus de place dans cette situation, soit effectivement par envoyer le plus fautif dans sa chambre.
Est-ce que vous avez des frères et sœurs, vous, Caroline ?
Oui, nous, on est 5 enfants. J'ai 4 frères et sœurs.
Comment ça se passait quand vous étiez enfant ? Est-ce qu'il y avait des conflits ? Quels souvenirs vous en gardez ?
J'ai le souvenir qu'on se disputait quand même pas mal, mais pas de la même façon. J'ai pas l'impression qu'il y avait ce besoin d'exister aux yeux des parents, en fait.
Entre vos enfants, il peut y avoir des disputes où ils en viennent aux mains ?
Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Enfin, ils vont pas vraiment se taper dessus. Non, mais ils vont se tirer les cheveux, se titiller ou je sais pas quoi. Mais c'est pas. Je trouve que c'est plus violent verbalement que physiquement.
Alors que vous, enfant, c'était plutôt l'inverse, presque.
Ouais, c'était peut-être plus physique, ouais.
Comment vos parents y réagissaient?
Je pense que mon père était quand même assez sévère, donc c'était systématiquement, il prenait les deux qui n'allaient pas, il nous collait dans une chambre et voilà. Ma mère, elle gérait, donc c'était pas une mère très sévère, elle laissait un peu couler.
Ok Caroline, ce que je vous propose c'est qu'on passe dans le salon d'à côté, on va rejoindre notre experte Sophie Baudry. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, formatrice en accompagnement bienveillant de l'enfant et animatrice des ateliers Faber et Maslisch pour les parents et les professionnels.
Oui.
Les parents que j'accompagne peuvent exprimer lors des consultations, des difficultés dans la gestion des conflits avec leurs enfants, comme Caroline vient de nous en témoigner. Ces situations peuvent réactiver chez eux ce qu'ils ont eux-mêmes vécu, enfants, au sein de leur propre fratrie, dans les relations avec leurs propres parents. Démêler les choses, adapter un comportement qui permettra d'apaiser les situations, c'est pas toujours simple. Donc tout d'abord, Sophie, de quoi parle-t-on quand on parle de rivalité au sein de la fratrie ?
Alors, les rivalités au sein de la fratrie, c'est quelque chose qu'on peut constater à travers les comportements des enfants que vous décrivez, Caroline. Hein. C'est-à-dire les chamailleries, quand ils se titillent entre eux, ou quand ils en viennent aux mains, quand ils se disputent. Les rivalités, en fait, sont animées par un sens. Enfin, souvent, derrière les rivalités, c'est des sentiments, effectivement, plutôt de jalousie. C'est ça qu'on trouve derrière la rivalité. Et la jalousie, c'est un sentiment qui exprime souvent un besoin d'amour et effectivement un besoin de reconnaissance. Et ça, Caroline, vous l'avez bien perçu. C'est un sentiment effectivement qui est souvent connoté négativement, alors qu'en fait, c'est un sentiment qui a le droit de s'exprimer. L'importance de laisser s'exprimer la jalousie de l'enfant, ça lui permet justement d'être connecté aux sentiments qu'il ressent. Mais tous les sentiments peuvent être exprimés, il n'y en a aucun qui est honteux, mais par contre tous les comportements ne sont pas acceptables. Et c'est là-dessus que les parents après vont devoir jouer. C'est-à-dire, ton sentiment de jalousie, il faut que je l'accueille, il faut que je l'écoute.
Après, ça ne te donne pas le droit, effectivement, d'être violent, verbalement ou physiquement, avec ton frère ou ta sœur. Donc, on va en parler peut-être un petit peu plus loin dans l'émission, mais il y a bien des solutions qui sont proposées, mais la question de l'écoute empathique, elle est vraiment fondamentale. Néanmoins, le sentiment de jalousie et les rivalités qu'il y a dans une fratrie sont assez banales, sont assez naturelles quand même. Et il faut vraiment voir la balance conflit et complicité. Hein, on verra effectivement à partir de quel moment il faut être en alerte sur ce sujet.
En tout cas, là, dans ce que vous nous dites, Sophie, c'est que c'est vrai que souvent, peut-être, les parents spontanément vont rabrouer l'expression de la jalousie, vont dire il faut pas être jaloux, et en effet souvent c'est connoté très négativement et on va inviter l'enfant à ravaler son émotion, ce qu'il ressent.
Et du coup il faut voir que derrière chaque sentiment s'exprime un besoin, c'est celui-là qui doit être entendu. C'est-à-dire qu'un enfant qui exprime un sentiment de jalousie, le fait de moraliser, de dire « c'est pas bien d'être jaloux », ou l'inciter à passer à autre chose, sans écouter en fait ce que ce sentiment veut dire, eh bien c'est une occasion manquée de communiquer avec lui et de rentrer en connexion véritable avec son enfant. Et derrière le sentiment de jalousie, donc effectivement, il y a un besoin fondamental, primaire, humain, qui est celui d'être aimé, et celui d'être reconnu. Alors après, il y a la question de la proportion. Hein. Vous disiez tout à l'heure, Caroline, que ça vous semblait... Vous aviez l'impression d'essayer de répondre à cette demande, mais que c'était sans fond et sans fin. Voilà. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut travailler avec l'enfant. Hein, parce que, ce que demandent les enfants, c'est pas des parts égales d'amour. Hein, ce que demandent les enfants, c'est d'être aimés de façon unique, chacun. Voilà. Et c'est de nouer une relation individuelle, individualisée avec l'enfant. L'idée, ce n'est pas de lui donner exactement la même proportion de bonbons qu'à sa sœur ou à son frère. L'idée, c'est de lui donner ce dont il a besoin. Et son besoin n'est pas forcément le même en fonction du contexte, en fonction de l'âge et en fonction de l'évolution de la dynamique familiale. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut regarder. Et ce que j'entends dans ce que vous dites, Caroline, c'est que, si j'ai bien compris, effectivement, il y a 2 ans et demi d'écart entre vos enfants. Donc, entre la plus grande et le plus petit, ça fait 5 ans. Voilà. Oui. Entre un enfant de 5 ans et un enfant de 10 ans, déjà, on part sur des rythmes biologiques, sur des besoins qui sont très différents. Et ils ne sont pas au même stade, effectivement, d'évolution. Et le positionnement dans la famille ne se pose pas du tout de la même manière. Hein, surtout entre un aîné qui a eu, effectivement, une relation parfois privilégiée avec ses parents pendant quelques temps avant qu'arrive le nouveau petit frère ou la nouvelle petite sœur. Et puis, à 10 ans, on ne se pose pas les mêmes questions qu'à 5 ans. On est aussi au seuil de la préadolescence. Il y a là vraiment la question du grandir ou rester petit, hein, avec toujours cette ambivalence hein, qui se joue assez fortement sur cet âge-là. Et le petit frère de 5 ans n'est pas du tout dans ces mêmes problématiques, il n'est pas du tout dans ces mêmes besoins non plus. Donc, ne serait-ce qu'au niveau des stades d'évolution, déjà, il y a une différence et ils n'ont pas besoin de la même chose. Et leurs propres besoins, ne serait-ce que par leur âge, peuvent déjà rentrer en conflit, sans parler de la personnalité, de la famille, du contexte. Voilà.
Est-ce que ça, justement, ce n'est pas quelque chose qui est assez fréquent dans l'origine des conflits, justement, ces différences de besoins en fonction de leur âge ?
Tout à fait. Et ça m'amène, du coup, à parler du fait que les conflits qu'il peut y avoir au sein d'une fratrie ne sont pas tous dus à la jalousie. Souvent, on l'envisage sous le prisme de la jalousie ou de la rivalité ou de la mise en concurrence, effectivement, pour avoir l'amour ou l'attention du parent. Mais parfois, c'est simplement des conflits dus à la différence d'âge de développement des enfants. À 10 ans, un enfant va avoir besoin peut-être de plus de temps de dialogue. Il en est à une autre phase de sa construction identitaire et il aura besoin de certains types d'interactions, d'un certain temps dans ses activités. Par exemple, il est sur des jeux beaucoup plus longs et d'autres types de jeux qu'un enfant de 5 ans. Un enfant de 10 ans, effectivement, va facilement être sur des jeux plus complexes, plus longs, par exemple, qui peuvent durer 45 minutes, 1 heure, alors qu'un enfant de 5 ans n'aura ni les mêmes jeux, ni les mêmes besoins, ni le même timing. Hein, là, on est sur des jeux souvent un petit peu plus courts, qui sont souvent, par exemple, des activités un peu plus créatives. Voilà, on n'est pas du tout, en fait, sur les mêmes stades de développement. Et ça peut déjà constituer une base de conflit non négligeable. Voilà. Donc, tout n'est pas que question de jalousie, clairement.
Du coup, voilà, peut-être pour avoir un petit rappel, Sophie, quels sont les différents besoins en fonction des âges des enfants ?
Pour faire de façon un petit peu schématique, on va dire que le bébé, hein, on va dire jusqu'à 8 mois, va être dans l'étape de la construction de soi-même. Et il va avoir surtout des besoins d'attachement, des besoins de sécurité et être vraiment dans une relation de grande proximité avec ses figures d'attachement. Donc là, effectivement, il y a un lien de dépendance qui est naturel et très fort, qui nécessite une présence, on va dire, quasiment de tous les instants de la part du parent. Ce qui est parfois compliqué, du coup, avec des enfants un peu plus âgés déjà, hein, qui vont avoir du mal avec cette proximité physique quasiment permanente avec un nourrisson. Hein, donc ça, c'est assez classique, par exemple. Entre 6 et 18 mois, par exemple, un an et demi, effectivement, on est sur la découverte de l'extérieur, sur une base plutôt exploratoire. La motricité se développe. L'enfant éprouve sa capacité, ses capacités motrices, ses capacités à avoir prise sur son environnement. Hein, c'est l'âge de la marche, c'est l'âge, effectivement,
des découvertes.
Entre 3 et 6 ans, on va avoir déjà une première base de construction identitaire. Donc l'enfant va intégrer la notion de « je » et ça va souvent remuer, hein, sur cet âge-là. Et il va tester effectivement aussi la façon dont il interagit avec les autres. C'est-à-dire qu'il va faire ses premières expériences véritablement sociales. Si je dis ça, qu'est-ce que ça donne ? Si je fais ça, qu'est-ce que ça donne ? Etc. Donc il y a beaucoup de tests comme ça que l'enfant fait, enfin que l'enfant explore, on va dire. Il explore, on va dire, la dimension plus relationnelle avec les autres.
Quand là vous parlez du je, J-E, voilà, de l'identité de soi, c'est aussi une phase de plus d'un individuation, donc de plus de conscience, de ses besoins, de ses envies. Il y a une affirmation davantage, voilà, de la personnalité, de la singularité de l'enfant.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que souvent c'est vécu et c'est dit par les parents comme une phase. Alors bon, il y a quelque chose que j'aime pas qu'on appelle le terrible two, qui est la phase des 2 ans. Voilà, c'est dommage de le voir sous un angle négatif parce que c'est effectivement un âge où l'enfant exprime ses besoins à partir de lui-même. Donc il les exprime très fortement parce que comme c'est tout nouveau, effectivement, ben il essaye. Et puis il est aussi beaucoup en miroir, hein, par rapport à ce que lui renvoie. Ses parents. Et je voudrais seulement dire, il faut toujours garder à l'esprit que quand un enfant vous dit non, il dit oui à lui-même. Et ça, c'est important. Le fait de pouvoir se différencier, de s'individuer. Oui, l'enfant, il dit non tout le temps. Alors, il faut voir aussi que parfois, il dit non en miroir du non qu'il entend aussi. Parce que dans les premières phases exploratoires, il reçoit parfois de la part des parents ou des adultes, hein, parce qu'il n'y a pas que les parents à cet âge-là, il y a des enfants qui sont aussi en collectivité, etc., ou gardés par des assistantes maternelles ou autres, le non, il va le répéter. Hein, il y a aussi un effet de miroir. Hein, plus on lui dit non, plus il dira non. Mais néanmoins, voilà, il y a, d'ailleurs on l'appelle un peu la première adolescence, cette phase-là, cette phase de j'existe en tant qu'individu et j'essaye de voir comment je développe mes relations au monde. Donc oui, c'est une phase très importante et qui va se rejouer après à l'adolescence et c'est fondamental.
Et du coup, entre 6 ans et l'adolescence,
là, on est sur une structuration identitaire, on va dire, qui est plus avancée. L'enfant, il va encore élargir, on va dire, son horizon et son environnement. Donc là, il va rentrer en connexion avec... progressivement avec le monde en dehors, on va dire, de la famille. De la famille, il va développer des opinions, il va développer des goûts, il va développer aussi un cercle amical. Il aura davantage, effectivement, au fur et à mesure, ça se précisera encore plus à l'adolescence, un besoin d'appartenance et un besoin de contact qui va se développer parce qu'on est éminemment des êtres sociaux.
Bien sûr. Face à ces différents besoins, alors Caroline, voilà, on voit bien, hein, du coup, chez vos enfants, qu'il y a, du fait de leur âge, voilà, des besoins différents. Les conflits, du coup, que ça suscite, vous nous avez dit, hein, suscite beaucoup d'émotions, à la fois chez vous, en tant que mère, mais aussi chez vos enfants. Qu'est-ce que vous observez dans le vécu de vos enfants, voilà, dans ces moments de conflit ?
Bah, je pense que pour eux, c'est dur aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a envie de faire changer les choses, parce que pour la famille entière, c'est pesant. Moi, ce que j'entends, c'est vrai qu'au début, vous disiez qu'il faut accueillir le sentiment de jalousie et distinguer le sentiment et le comportement. Et c'est vrai que, en vous écoutant, je me disais, quand justement il y en a un ou une qui essaie un peu d'écraser l'autre pour dire non mais moi je fais mieux, non mais moi ceci, etc. J'ai tendance à finalement pas forcément entendre le sentiment, mais à répondre par des éléments concrets. Non mais tu peux pas dire ça parce qu'en fait c'est pas vrai, parce que regarde, je t'ai donné ça, je t'ai accordé ci, etc. Alors que finalement j'entends que c'est pas trop le bon argument, et l'impression que me donnent ces conflits sur ma fille, par exemple, c'est qu'elle a un sentiment d'injustice, en fait.
Alors, c'est vrai que c'est une tendance naturelle qu'on a. Hein. C'est-à-dire que on est dans une société qui prône le culte de la raison. Hein. Donc, faire entendre raison aux enfants, l'âge de raison des 7 ans, on en parle beaucoup. Sauf que, en fait, quand un enfant est fortement aux prises avec une émotion, il est incapable de réfléchir sur la situation en même temps. Le recul que vous avez en arrivant sur la situation fait que, en fait, ce n'est pas une réponse qui est au niveau de l'enfant. Non pas que le niveau de l'enfant est plus bas, mais le niveau de l'enfant, en fait, vous interagissez avec lui sur un autre... Pas au niveau où il en est, au niveau émotionnel, quand cette petite fille est en train d'exprimer de la colère, de l'injustice, etc. C'est à ce moment-là, il faut être avec elle à ce niveau-là. Et en fait, ça fait pas tout. L'écoute empathique, l'accueil de l'émotion, c'est le début du travail avec l'enfant. Parce que ça va nous permettre d'accéder à un discours, à son discours à lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se passer au fond de lui? Et en fait, l'enfant ne le sait pas. Il va falloir l'aider à trouver ça. Derrière chaque comportement, il y a un message. Si le message n'est pas entendu par le parent, l'enfant va répéter, et de plus en plus fort. Parce qu'il y a un message derrière le comportement. C'est ça qu'il faut aller décoder avec l'enfant. Et l'enfant ne le sait pas lui-même. Et c'est pas sur le moment aussi où il y a le conflit qu'il faut engager des grandes discussions. C'est à froid. Parce que l'enfant, effectivement, n'est pas en état d'avoir une discussion, soi-disant, raisonnable entre adultes. Et même, franchement, quand on regarde des adultes aux prises avec la colère, c'est souvent difficile de leur faire entendre raison. Pourquoi on l'exige d'enfants, alors qu'ils sont encore plus vulnérables et qu'ils sont pas construits, qui sont encore immatures au niveau cérébral? Donc, cette nécessité de se mettre à hauteur de l'enfant et de le prendre là où il en est. Il est dans son émotion, j'accueille son émotion. C'est pas la peine de partir sur des explications, sur des rationalisations, sur des moralisations. Ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est votre expérience, Caroline. Donc, ça, c'est le début. Et effectivement, à froid, c'est de revenir sur ces sentiments-là et l'aider à creuser avec lui-même. Viens, je te prends par la main, on va essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé pour toi. Et là, l'enfant va pouvoir accéder à un autre niveau de compréhension de ce qui se passe pour lui, parce que le but, in fine, c'est que ce soit lui qui trouve la solution à ce qui se passe, et pas vous. C'est ça, l'accompagner véritablement vers son autonomie.
Là, dans ce que vous nous avez dit, Sophie, il y a plein de choses, en tout cas par rapport à la question des émotions. En effet, on avait déjà, dans d'autres épisodes, pu parler du cerveau qui disjoncte, en prenant l'image du cerveau dans la main, voilà, pour expliquer ce qui se passe dans le cerveau des enfants. Mais il se passe la même chose aussi chez le parent. Quand le cerveau a disjoncté, il faut un temps pour redescendre, et pouvoir accéder en effet à autre chose, à comprendre, à aller décoder, etc. En tout cas, les enfants aussi, alors vous nous l'avez bien dit, Caroline, en tant que parent, ça suscite de la culpabilité, de la frustration, surtout quand on a envie de bien faire, bien sûr, de la tristesse, de l'impuissance, voilà. Du côté de l'enfant, on a parfois de la colère, voire de la rage. Et puis, l'impression d'être incompris, pas reconnu dans son identité, dans ses besoins. Des enfants qui peuvent aussi être amenés à, du coup, développer peut-être des comportements un peu de retrait, du fait de conflits répétés. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà pu observer, Sophie?
Face à une agression, il n'y a pas 15 000 possibilités. Hein. Soit, effectivement, il y a l'affrontement direct. Soit il y a la fuite, soit il y a la sidération. Voilà. Donc, en gros, voilà comment on réagit face effectivement à une agression extérieure. Donc, on a des enfants qui vont pouvoir développer toute cette palette-là. Alors, effectivement, en fonction des personnalités et des contextes, ça pourrait être différentes réactions. Il y a des enfants qui, effectivement, vont davantage se refermer sur eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont devenir plus agressifs. Et puis, il y en a d'autres qui vont être dans l'évitement systématique. Mais ça, effectivement, c'est des signaux d'alerte. C'est que l'enfant se sent agressé. Et après, il faut vraiment regarder la balance, comme je disais tout à l'heure, complicité-conflit.
c'est-à-dire à quel moment l'enfant donne des signes de mal-être, à quel moment effectivement les moments de complicité n'arrivent plus à combler les moments de conflit qui peut-être ouvrent des brèches de fragilité pour les enfants. Donc après, c'est vraiment aux parents de voir un petit peu les signaux d'alerte par rapport à ça.
Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que je me suis un peu focalisée sur le problème, mais mes enfants, par ailleurs, ont une incroyable complicité. Ils peuvent jouer ensemble pendant des heures. Et ce qui est justement assez frappant, c'est de voir à quel point ils peuvent bien jouer tous les trois, sans conflit, dès qu'ils sont dans leur chambre et qu'on n'est pas là, et que le conflit naît à partir du moment où nous, les parents, on est là, en fait. Alors que le reste du temps, ils sont même... ma fille aînée va même être très protectrice avec son petit frère, qu'elle houspille autant quand on est tous ensemble. Mais si on est dans la cour de récré, elle va le protéger, être super mignonne avec lui, être vraiment aidante. Quand on n'est pas là, elle va l'aider justement, je sais pas, à faire des petites activités un peu d'école pour l'entraîner, le féliciter. Enfin, l'inverse en fait, c'est complètement fou. Mais dans ce que vous disiez, moi, c'est aussi détecté chez ceux qui se font agresser, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas non plus comment les accompagner pour qu'ils prennent pas ça comme un état de fait, de se dire, bon, ben, en fait, je me fais perpétuellement rabrouer. Ben, c'est comme ça qu'est la vie et c'est tout. Donc, je ne sais pas s'il y a des façons aussi de les aider à réagir eux-mêmes pour faire leur place, quoi.
Quand il y a une agression, les parents ont souvent tendance à aller s'occuper de celui qui a commis l'agression pour le mettre à l'écart. Alors, vous parliez de punition tout à l'heure, ou de mise à l'écart, effectivement, le fameux time-out. Et en fait, c'est tout l'inverse qu'on devrait faire. Quand il y a une agression, c'est l'enfant qui a été agressé dont on doit s'occuper, en priorité.
Ce que vous, en tout cas, ce que vous disiez, Caroline, que vous, quand c'est votre petit dernier qui a attaqué, vous avez tout de suite envie de le protéger, voilà, de prendre sa défense.
Et après, il y a façon et façon d'interagir aussi. Parce qu'effectivement, alors, l'idée, c'est pas de prendre immédiatement parti. L'idée, c'est de savoir comment il se sent, comment il va. Et l'idée, c'est justement que lui exprime comment il se sent pour que l'autre, qui a agressé, entende ce qui est en train de se passer. Pour son frère ou pour sa sœur. Le but, in fine, c'est de développer l'empathie de l'enfant. Voilà. Après, c'est très compliqué parce que quand on est parent, on est à la fois juge et à la fois on est partie, c'est-à-dire on est l'enjeu du conflit, finalement. C'est ce que vous disiez. Quand je ne suis pas là, ça se passe super bien. Puis effectivement, les conflits éclatent quand on arrive. C'est pour ça que ce que fait votre conjoint... en laissant les enfants régler en partie leurs problèmes eux-mêmes, a un certain intérêt. Parce qu'effectivement, je sais que c'est dur à se dire, mais vous n'êtes pas responsable de la relation qu'il y a entre vos enfants, en tout cas pas totalement. Voilà. Vous êtes responsable de la relation que vous entretenez avec chacun de vos enfants. Mais voilà, déjà on peut pas
et du cadre que le parent va poser.
Mais on peut pas forcer les enfants à s'aimer. On peut pas forcer les enfants à ne pas rentrer en conflit. On peut juste effectivement créer un cadre qui soit bienveillant. On peut tisser des relations de qualité avec chaque enfant et les accompagner effectivement dans leurs difficultés, puis dans les moments heureux aussi. Mais la question de faire le médiateur aussi quand ça va pas, quand les conflits sont trop installés, c'est des choses qui peuvent intéressante, on en reparlera peut-être un petit peu plus loin, dans l'émission, mais c'est toujours intéressant quand il y a une agression qui se produit de faire verbaliser, si c'est possible, à l'enfant qui a agressé comment il se sent et que l'autre qui l'a agressé entende ça. Alors sur le coup, il va peut-être pas le prendre en compte, mais ça aura été dit. Et surtout, pour l'enfant qui a été agressé, ça sera aussi une manière de dire sa colère, de dire ce qui ne va pas pour lui et de reprendre aussi un certain pouvoir d'agir sur la situation, qu'il ne soit pas uniquement victime. Voilà. Et qu'en tout cas, tout ça soit clairement dit dans la famille. Voilà. Quand tu dis ça, eh bien moi, je me sens blessée, je me sens en colère, je me sens triste, je me sens nulle. Voilà. Il faut que l'enfant qui a agressé l'entende, ça.
Donc plus faire un arrêt sur image, en fait, quand il y a la dispute, plutôt que de vouloir l'éviter. Parce que souvent, on a plutôt envie que ça se termine et que
le calme revienne. Et le problème, c'est qu'en stoppant ça, sans avoir écouté les émotions qui sont derrière, ça fait juste une belle boule de neige qui va effectivement refaire des tours supplémentaires la prochaine fois. Et ça va grossir. Voilà. Du moment que les émotions ne seront pas écoutées, mise sur la table. Et ça, c'est aussi aux parents de le faire. Alors, ce n'est pas le moment, effectivement, quand il y a le conflit dans la fratrie, mais d'être conscient aussi. Hein, parce que les adultes, inversement, ont tendance à souvent beaucoup rationaliser, beaucoup verbaliser, de partir sur des choses très rationnelles, très cartésiennes, d'analyse de la situation. Mais il ne faut pas oublier, vous, ce que vous ressentez aussi comme émotion et ce que ça vous ramène. D'ailleurs, c'est pour ça qu'effectivement, c'est la question sur votre vécu dans la fratrie était toujours très intéressante à aller regarder. Parce que pour vous, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a clairement... ce qui vous gêne, vous dérange, vous énerve en tant que parent n'est pas universel. C'est lié à votre propre vécu, à votre propre histoire. Donc c'est toujours intéressant à aller... S'il y a des situations qui vous mettent en colère ou que vous ne supportez pas, mais un autre parent aura, dans un autre contexte, aura effectivement d'autres réactions. Donc c'est toujours intéressant à aller interroger.
Pour revenir sur la question des émotions et notamment de la gestion de la colère, parce que c'est quand même une question qui revient très souvent tant du côté des parents que du côté des enfants. En tout cas, les deux sont concernés. Sophie, voilà, quel conseil vous pourriez nous donner pour la gérer, en tout cas pour les parents, pour la gérer pour eux-mêmes et puis pour leurs enfants. Et puis, souvent on parle de colère, mais on n'utilise que ce mot, mais il y a peut-être plein d'autres mots. En tout cas, parfois les parents aussi minimisent et que c'est pas de la colère. Je parlais de rage tout à l'heure.
La colère, c'est une émotion, effectivement, qui fait partie des émotions primaires, mais qui a une particularité. C'est ce qu'on appelle une émotion écran. C'est-à-dire que c'est une émotion qui fait écran à d'autres sentiments qui sont enfouis et qui sont parfois culturellement plus difficiles à avouer.
Comme la tristesse, par exemple.
Ou la déception, ou la frustration, ou la honte. Hein, ça, c'est parfois difficile à assumer. Donc voilà, c'est un petit peu une sorte d'iceberg, on va dire. Hein. C'est-à-dire que surnage en apparence, en haut, au-dessus de l'eau, la colère, mais dessous, eh ben, y a la plus grosse partie de l'iceberg. Et la plus grosse partie de l'iceberg, souvent, c'est des sentiments enfouis. Donc, c'est pour ça que quand on est dans l'écoute empathique et l'accueil des émotions, il faut bien faire attention à ne pas tomber dans le travers de verbaliser en permanence la colère. Parce qu'en fait, tout n'est pas que de la colère. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que souvent, hein, c'est une émotion qui est plus ou moins valorisée, notamment chez les petits garçons, hein, parce qu'effectivement, c'est acceptable d'être en colère, mais les sentiments qui sont derrière, qui peuvent être, comme on le disait, de tristesse, de frustration, de honte, de déception, eh bien, on a du mal à les faire émerger. Donc, il ne faut pas se contenter de dire, voilà, j'ai l'impression que tu es en colère. Non. Déjà, peut-être qu'il n'est pas juste en colère. Peut-être qu'il est fou de rage. Hein? Donc, le degré de l'émotion est très important. La question du curseur. Parce que quand on est dans l'écoute empathique, il faut mettre exactement le mot de l'émotion avec laquelle l'enfant est aux prises. C'est-à-dire que si l'enfant est extrêmement en colère, il est fou de rage, révolté, il ne faut pas hésiter à se dire ce mot-là. Alors, souvent, c'est difficile pour les parents parce qu'ils ont l'impression de mettre de l'huile sur le feu. Parce qu'effectivement, parfois, la réaction de l'enfant, ça va être d'exploser encore plus. Mais c'est libérateur pour l'enfant. Effectivement, il est fou de rage. Et les enfants, on sait, de par leur immaturité cérébrale et plein d'autres choses, ils sont aux prises avec des émotions extrêmement intenses. Et ça, c'est souvent difficile et douloureux pour les parents. Pourquoi ? Parce qu'on baigne dans une culture éducative traditionnelle qui est dans la répression des émotions. On ne nous a pas permis d'être fou de rage quand on était petit. Or, c'est un sentiment qu'on a éprouvé. Et qu'on ne se permet de redécouvrir parfois qu'à l'âge adulte, voire jamais. En tout cas, de mettre véritablement le mot dessus.
Donc, il y a vraiment qui est réactivé par les enfants, oui, parce qu'on vit avec nos enfants et que là, du coup, voilà, ça déborde. On ne sait pas, le parent ne sait pas comment faire, se sent submergé par ça, et c'est compliqué.
Ça lui renvoie effectivement un miroir douloureux, voilà, parce que c'est une émotion qui ne fait pas partie de son alphabet émotionnel. Il faut voir qu'effectivement, au niveau émotionnel, on est vraiment des analphabètes. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas nommer les émotions, on ne sait pas décrire les sentiments, ou très peu. Ou voilà, ça reste souvent, c'est quand je travaille avec des parents, des professionnels sur le sujet, ils se rendent compte qu'ils en connaissent une petite poignée et puis ça s'arrête là. Hein. Or, effectivement, la palette des émotions et des sentiments, elle est extrêmement large. Et c'est très important d'accompagner son enfant par rapport à ça, parce que c'est ça qui lui permettra après de pouvoir gérer entre guillemets ses émotions et puis aussi de reconnaître celles chez les autres et de développer l'empathie. Hein, c'est-à-dire que L'empathie, le respect, ça tombe pas du ciel, ça tombe pas comme ça. Il faut que l'enfant l'ait éprouvé lui-même personnellement avant de pouvoir l'adresser à l'autre. C'est une base fondamentale. Or, on zappe, dans la culture éducative traditionnelle, on zappe toutes ces phases-là et en demandant précocement et parfois de façon inadaptée par rapport à l'âge de l'enfant de développer de l'empathie et du respect envers les autres. Alors que bon, on voit qu'il y a même des adultes qui ont du mal. Donc voilà, c'est des demandes qui sont souvent pas réalistes et qui surtout zappent une étape importante. C'est-à-dire qu'avant de parler de respect, par exemple, il faut que l'enfant ait un vécu du respect intérieur, enfin qu'il ait un vécu personnel de ça pour pouvoir après le développer avec d'autres. Et pour les émotions, c'est pareil. Une fois qu'il aura intégré et reconnu une émotion que vous nommerez, parce que l'enfant est aux prises avec des émotions qu'il ne connaît pas et qui le déborde, il faut bien voir ça. Quand un enfant fait, soi-disant, une crise, ce n'est pas un enfant qui fait une crise pour embêter le parent. C'est un enfant qui est aux prises avec une émotion qui le déborde et qu'il n'arrive pas à gérer. Donc oui, là, le rôle du parent est de l'accompagner, de nommer l'émotion et que l'enfant puisse intégrer, reconnaître ce qui est en train de se passer. Et une fois, et ça prend des années, qu'il aura intégré ça, après, il sera capable de développer de l'empathie et accueillir les émotions des autres. Mais on ne demande pas ça à un enfant de 3 ans, clairement.
Oui, le docteur Guéguin nous a bien parlé des tempêtes émotionnelles vécues par les enfants. Et là, ce que vous dites par rapport aux émotions et à tout le vocabulaire très riche aussi dans la langue française, en tout cas qu'on a. Moi, j'utilise beaucoup une roue des émotions avec les parents, voilà, pour les aider justement à développer leur panel de mots pour justement nommer ce qu'ils observent et ce qu'ils ressentent de ce que vit leur enfant. Du coup, Sophie, concrètement, voilà, Caroline, comment elle peut gérer les situations de conflit dont elle nous a parlé?
La première chose, et c'est certainement pas la plus facile, c'est d'avoir une observation du terrain. C'est-à-dire quel cadre j'ai mis en place dans ma famille pour que chacun trouve sa place, que les émotions soient entendues, que ce soit propice au développement de l'empathie. La question de l'exemple que l'on offre aux enfants est à poser. Moi-même, comment est-ce que j'exprime ma colère? Comment je rentre en conflit avec les autres? Comment ça se passe avec mon conjoint devant les enfants? Parce que ça reste important. Souvent, les mots passent, mais les comportements restent pour les enfants. Les enfants, ils vont souvent pas être très sensibles à des grandes leçons de morale ou des grands mots qu'on leur dit. Mais par contre, les enfants observent. Ils observent beaucoup plus qu'on ne croit. Et ils observent vraiment les mots qu'on utilise, les comportements qu'on a, comment nous-mêmes nous gérons nos conflits. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dans une recherche de perfection. Ça veut dire qu'il faut être conscient, voilà, de la sorte de modèle qu'on peut représenter aux enfants et de ce qu'on leur donne à voir au sein de la famille. Après, se pose la question de comment je développe une relation unique et authentique avec effectivement chacun de mes enfants. Vous disiez effectivement, vous faisiez des efforts pour passer du temps individuellement avec eux. Alors, dans l'absolu, je pense qu'effectivement, c'est plutôt une bonne idée. L'important, c'est que ça corresponde surtout aux besoins de l'enfant, en fait. Et c'est là où on va revenir sur la notion d'égalité et la notion d'équité. Les enfants n'ont pas forcément besoin de passer une heure chrono avec chacun de leurs parents. Les enfants ont besoin d'avoir peut-être leurs parents à tel moment, pendant 30 minutes sur ça, à un autre moment de la journée, qui sera important pour eux. Mais ce qui est important, c'est surtout être attentif et répondre aux besoins de l'enfant. Et du coup, ça s'exprimera peut-être pas de la même façon. Et peut-être qu'au final, sur la semaine, vous aurez passé deux fois plus de temps avec votre aîné et puis juste une demi-heure avec le plus petit. Et chacun le vivra bien, parce que ce n'est pas injuste. C'est ce qu'on appelle de l'équité, c'est-à-dire donner à chaque enfant ce dont il a besoin. Et les besoins ne sont clairement pas les mêmes. Voilà. Parce que finalement, il y a toujours cette fuite en avant de l'égalité. Comme je disais tout à l'heure, si vous donnez 3 bonbons à chacun, il y en a un qui va être content, il y en a un qui va être frustré, et puis il y en a un quand on ne voulait pas du tout. Voilà. Et donc l'équité, c'est de donner à chacun ce dont il a besoin. Et un enfant qui demande toujours plus, effectivement, il faut voir et se poser avec lui. La question de remplir le réservoir affectif des enfants, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'un enfant comme ça, qui va être toujours en demande, c'est qu'il a son réservoir affectif qui est vide, en fait. Donc, comment est-ce qu'on remplit le réservoir affectif d'un enfant avec le contact physique? Donc, par exemple, le câlin, la proximité physique, le fait de faire des activités ensemble, et surtout, le message d'amour fondamental, c'est le jeu.
jouer avec son enfant. Je pense que jouer, c'est pas juste accessoire. Le jouer, c'est vraiment, pour l'enfant, une manière d'être au monde, d'apprendre le monde, de rentrer en contact et aussi de permettre une connexion affective avec l'enfant. Et le jeu avec l'enfant, en fait, souvent, c'est ce qui va remplir son réservoir affectif. Il y a plein de jeux comme ça qui permettent aux parents et aux enfants de se reconnecter, qui peuvent être effectivement être des jeux un petit peu de chatouille ou qui peuvent effectivement détourner, on va dire, une situation, par exemple, de rivalité. Catherine Dumontet-Crémer, je crois que c'est elle, elle parle de karaté chaussette qu'ils ont inventé. Alors, apparemment...
Ça se passe comment, le karaté chaussette?
Alors, de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises, le but, effectivement, c'est d'être sur un matelas, bon, où personne peut se faire mal. Et puis, c'est d'aller arriver à retirer les chaussettes d'un des enfants, effectivement, qui est désigné, ou d'un des parents, bien sûr, qui est désigné. Et donc, du coup, ça va être toute une série. Alors ça doit se faire effectivement avec, en faisant un petit peu attention, ça dépend l'âge des enfants, etc. Mais bon, néanmoins, les petites chamailleries, les jeux où on se tape avec l'oreiller, etc., ça peut être aussi un bon défouloir. Et que le parent y participe, ça permet aussi, parfois, de faire retomber un peu le soufflet, la pression, et d'assainir un petit peu les choses.
Là, je pense à des parents que j'accompagne qui font des booms ou des batailles d'oreillers, en effet, voilà, ce genre de choses.
Voilà.
Qui dansent avec leurs enfants, voilà, ils mettent la musique à fond et pendant 5-10 minutes.
Et surtout, ce qui est intéressant dans ces jeux-là, où on fait une pseudo-compétition et qu'on met en scène une sorte de rivalité à qui va arriver à faire ça ou qui est le plus fort, etc., le parent doit essayer de perdre. C'est très important. Parce que les enfants, souvent, sont aux prises avec des sentiments d'impuissance, de toujours perdre, de savoir moins, etc. Et ça permet parfois de recaler un petit peu les choses. Hein. Il faut un parent qui soit bon perdant. Et il faut essayer de perdre dans ces cas-là. Attention aux parents qui se prennent trop au jeu et qui veulent essayer d'avoir le jeu dessus systématiquement. L'issue et les bénéfices ne seront pas du tout les mêmes. Voilà. Mais ça permet d'évacuer, on va dire, les tensions et de se reconnecter aussi effectivement avec ses enfants.
Caroline, avec votre mari, est-ce que vous jouez avec vos enfants?
Alors, pas au karaté chaussettes, mais on va peut-être essayer prochainement. Pas beaucoup, je pense. On fait un peu de jeux de société, sortie, balade, découverte, plus que le jeu en soi. Moi, je cuisine pas mal avec les enfants, mais c'est vrai que typiquement, c'est une activité qu'adore faire mes deux plus jeunes, mais la grande, ça n'intéresse pas du tout, donc c'est quelque chose que je ne fais pas avec elle, par exemple. Et c'est vrai qu'elle arrive aussi à un âge, pour reprendre vos suggestions sur les jeux, où c'est vrai qu'en grandissant, elle est moins jeu, plus lecture ou activité plus perso. Enfin, c'est vrai que où les jeux changent peut-être. Mais en tout cas, il n'y a plus la partie de petits chevaux qu'on fait quand ils ont 6 ans, quoi. Mais il y a sans doute plein d'autres jeux à réinventer un peu différents, c'est vrai.
Mais les jeux des fouloirs, surtout quand il y a beaucoup de tensions familiales, ça peut vraiment... On ne s'imagine pas à quel point parfois ça peut faire retomber le soufflet d'une dynamique un petit peu conflictuelle et permettre d'extérioriser des choses. Par le jeu, on arrive à simuler plein de choses. Effectivement, ça peut être agréable et libérateur d'aller donner un coup d'oreiller à son petit frère ou à sa petite sœur, voilà, plutôt qu'effectivement se chamailler avec lui, lui crier dessus, le dévaloriser, le moquer systématiquement, etc. Mmh. Et là, pour le coup, on est dans le cadre du jeu, ça aurait fait de mal à personne. Évidemment, il faut pas que ce soit si. Faut que ça reste du jeu. Il faut que le petit frère aussi puisse redonner un coup d'oreiller à la grande sœur de 10 ans, mais on va dire c'est une forme de défouloir et puis de reconnexion physique. Et ça, c'est très important parce que faut voir que les enfants, ils ont des canaux de communication qui sont pas toujours les mêmes que les nôtres. Hein, nous, on est souvent beaucoup plus intellectualisants, beaucoup plus sur le verbal, sur des activités artistiques, esthétiques, etc. Mais en fait, un enfant, au fond, il y a un besoin de jeu, d'énergie, de défouloir qui est important à toujours laisser s'exprimer. Hein, parce que, c'est dans le monde dans lequel ils vivent, en tout cas, je pense qu'ils en ont tous besoin.
Nous aussi.
Et vous aussi. Oui, et nous aussi, c'est vrai.
Vous nous disiez, Sophie, dans la gestion, une des gestions possibles, c'est aussi la médiation. Alors, de quoi il s'agit exactement?
La médiation, c'est effectivement quelque chose qu'on doit faire quand les conflits sont installés et récurrents. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une situation qui pose problème. Et là, il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir et d'en parler ensemble. Il faut cibler une situation particulière, néanmoins. Partir sur des généralités, ça marche jamais.
Il faut prendre une situation qui, pour vous, est récente. Parce qu'avec des enfants, surtout, plus ils sont petits, plus il faut que ce soit récent. Parce que sinon, ça remonte trop loin en arrière. Ou il faut même faire ça assez rapidement. Faut attendre déjà que la colère et l'excitation soient retombées pour pouvoir parler. Et puis après, faut prendre une situation qui s'est déroulée récemment et où là, il y a eu un conflit, par exemple, typiquement. Et le parent, en fait, va faire le médiateur entre les deux enfants. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va chercher à avoir la version de chacun, parce que chacun l'a vécu avec son prisme. Donc, on écoute chaque enfant. Voilà, on se met donc à l'écart. On prend les enfants qui sont en cause dans la situation, hein, donc typiquement peut-être le petit frère et la grande sœur, on s'assoit tranquillement sur un canapé et on pose la situation de façon la plus neutre possible. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu que tu arrivais dans la pièce très en colère et que tu as tiré les cheveux de ton petit frère en criant très fort. Donc ça, il n'y a pas de jugement.
Donc d'être factuel.
On est factuel, on ne juge pas, on fait bien attention de ne pas juger. Et après, on va demander la version à chacun, parce qu'en fait, il s'est passé des choses. Donc, le petit frère de 5 ans va expliquer ce qui s'est passé pour lui. Donc, voilà. Et la grande sœur de 10 ans va expliquer elle aussi. Donc, certainement, elle va revenir en arrière sur ce qui s'est passé, etc. Faut que ce soit quand même assez court. Une fois que les deux enfants ont exprimé chacun leur version des choses, on résume rapidement. Et surtout, on essaie de comprendre ce qu'ils ont ressenti chacun dans la situation. Parce que l'idée, c'est de leur faire verbaliser. Voilà. Donc, le petit frère de 5 ans, par exemple, il a eu très peur. Et puis, il a senti que c'était extrêmement injuste ce qui était en train de se passer. Et puis, la grande sœur de 10 ans, elle a ressenti un fort sentiment, par exemple, d'injustice. Elle se sentait extrêmement en colère. Elle était folle de rage. Voilà. Donc, après, on verbalise les sentiments. L'idée, c'est que chacun entende ce que l'autre a ressenti. Une fois qu'on a fait un résumé de la situation, qu'on a verbalisé les sentiments, que chacun ait entendu ce qui s'était passé, on dit aux enfants, bon, c'est un problème qui se pose de façon récurrente, il va falloir qu'on arrive à trouver des solutions ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette situation? Donnez-moi votre solution. Voilà. Et je vais lister toutes les solutions, sans juger, sans rien dire. Donc là, on propose aux enfants de donner toutes les solutions, même les plus fantaisistes qui soient, sans juger, sans rigoler. On propose aussi les siennes en tant que parents, hein, parce qu'on fait partie quand même du jeu. Et puis après, une fois que tout est listé, on va revenir sur les solutions qu'on a listées, on va voir celles qui sont acceptables pour tout le monde. Alors, dans le meilleur des cas, on en trouve une, on propose de la mettre en application, on propose un temps d'essai pour la mise en œuvre, en disant, voilà, on va essayer de fonctionner comme ça pendant 10 jours, et dans 10 jours, on refait un point pour savoir si ça va. Soit on arrête, soit on recommence. Une autre recherche de solution. Si on ne trouve pas de solution sur le moment, parfois ça peut venir après. Il ne faut pas, à tout prix, vouloir trouver une solution immédiatement. Les deux enfants vont cheminer de leur côté et parfois, c'est eux qui reviennent en disant « Ah, tu sais, j'ai pensé à… » etc. Il faut leur laisser aussi, il faut leur donner des outils, mais il faut leur laisser aussi le temps de cheminer. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on fasse ça sur des situations de conflits récurrents, par exemple autour du petit déjeuner le matin ou les repas. Hein, ça, par exemple, c'est ce que vous évoquiez. Où on pose les choses factuellement, on écoute la version des enfants, on essaie de comprendre les sentiments qui étaient derrière et les besoins qu'ils avaient. Et après, on est en recherche de solutions. Voilà. Okay. On essaie de mettre quelque chose en place.
On voit si ça fonctionne. Tout le monde va être acteur de cette mise en place de la solution choisie. Quoi.
Tout à fait. Voilà. C'est une sorte de pacte, on va dire, qu'il faut créer. Alors ça, clairement, on ne le fait pas 15 fois par jour. Hein. C'est vraiment sur une situation de conflit. Je me permets quand même de rajouter un outil qui est intéressant à mettre en place et qui permet aussi de prévenir des conflits qui s'installent. C'est ce qu'on appelle les conseils de famille. Les conseils de
famille. Vous en parliez d'ailleurs, Caroline.
Oui, on en a beaucoup fait à une époque et où on essayait de mettre en place un peu de la même façon que vous le disiez, chacun proposait ses solutions, faisait un tri, etc. Et c'est vrai que ça a un peu fonctionné. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, donc je pense que c'est le moment de le refaire. Mais c'est vrai que là, j'avais l'impression que dans notre situation, je pourrais être à la fois médiatrice et partie quelque part, parce que, non pas que je sois dans la dispute, mais parce que finalement, la critique ou le fait de faire enrager son frère ou sa sœur va être guidé par le fait qu'ils trouvent que nous, on leur a pas laissé la place de s'exprimer. Donc, comme nous, on leur a pas laissé la place, mais qu'on a laissé le petit parler, ils vont s'énerver contre lui. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, qu'on sera un peu considéré comme fautif ou qu'on sera aussi partie prenante de la réflexion. Quoi.
Oui, c'est pour ça qu'effectivement, faut revenir en arrière et reprendre du recul. La question posée, voilà, tout toute la question du cadre et du terrain, elle est fondamentale, on va dire, pour prévenir les conflits. Parce que souvent, on a tendance à réagir aux conflits quand on est le nez devant, en fait, et le nez dedans. Voilà. Et quelque part, c'est pas trop tard. Mais il va falloir beaucoup d'énergie pour essayer de résoudre ça. C'est pour ça que la question de prévenir les conflits, de développer une relation de qualité avec son enfant, de voir si le réservoir affectif est rempli ou non, ça permet aussi de prévenir le conflit. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, vous êtes responsable de la relation que vous entretenez avec chacun de vos enfants et pas de forcément ce qui se passe entre eux. Et c'est pour ça que dans la médiation que je vous propose, la question de la neutralité et du caractère factuel des choses, elle est fondamentale. Parce que là, vous ne devez pas être. Vous devez être là pour mettre des mots, donner des outils à vos enfants pour apprendre à gérer les conflits, en fait. Mmh. Voilà.
Sophie, à quel moment les parents doivent-ils s'alarmer, s'inquiéter ? Alors, vous nous l'avez un peu dit déjà tout à l'heure, quand les émotions, notamment exprimées par les enfants, le vécu est très douloureux et j'imagine du côté du parent aussi.
Les signaux d'alerte, y compris des signaux discrets d'alerte, d'un enfant qui effectivement se referme un petit peu sur lui ou ne fait plus les activités qu'il aime, etc. Ça doit alerter. Bon, quand on est attentif à son enfant, souvent on voit quand ça va pas. Après, il y a aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai, qui correspond à l'histoire des âges de développement. Il faut voir si ça s'installe dans la durée ou non. C'est épisodique ou ça dure et ça s'amplifie. Là, c'est aussi un signal d'alarme. Si c'est que soit épisodique quelque part, bon. Si ça s'installe véritablement et que ça dure et que ça s'amplifie, là, c'est plus compliqué.
Oui, les conflits épisodiques font partie de la vie de la famille.
Oui, clairement.
Caroline, est-ce que vous avez eu besoin d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide pour vous aider face à ces situations ?
On avait déjà consulté pour ma fille aînée, notamment après l'arrivée de ses frères et sœurs. Là, c'est plus vraiment le cas. Et c'est pour ça que c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui, parce que moi, je trouve que les conflits se sont intensifiés. Après, on parlait du cadre, de la façon aussi dont les parents interagissent. Et c'est vrai que je pense que le contexte de cette année de confinement, on a tous été à 5 en cocotte minute toute l'année, a sans doute aussi un peu joué sur tout ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça s'est intensifié.
Il y a aussi la question des ateliers, notamment des ateliers que vous animez avec l'approche Faber et Maslisch. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Sophie ?
Alors, Faber et Maslisch, c'est effectivement des ateliers qui sont proposés en soutien à la parentalité, qui sont en gros des outils de communication non violente adaptés véritablement à la relation parent-enfant et qui se déroulent, on va dire, sur plusieurs sessions. Pour le premier cycle, par exemple, il y a 8 sessions avec une mise en pratique d'outils très concrets qui sont donnés aux parents et qui lui permettent d'acquérir ce qu'on appelle des habiletés. Voilà. Donc c'est toujours intéressant, effectivement, parce que c'est aussi des cercles de parents où on peut parler des difficultés et essayer de mettre en place des outils qui sont proposés par Faber et Maslisch et qui sont vraiment des outils très pratiques, très concrets et pragmatiques.
Comme vous nous l'avez bien dit, Sophie, les conflits dans une fratrie peuvent avoir plusieurs origines. Travailler, comme on vient de le dire, sur l'expression des besoins, des émotions, éviter d'être dans le jugement est absolument essentiel pour aider à l'apaisement de ces situations. Le travail donc le plus important est souvent à réaliser quand même en amont pour mettre en place justement un cadre bienveillant, donner des outils pour gérer les conflits, tant du côté du parent que du côté de l'enfant. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Caroline, du coup, que nous recommandez-vous ?
Alors là, comme lecture, effectivement, je recommanderais volontiers les deux ouvrages. Il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs, de Faber et Maslisch.
Donc, en effet, il y a « Frères et sœurs sans rivalité », et puis « Parler pour que les enfants écoutent » et « Écouter pour que les enfants parlent ».
Oui. Et il y a aussi un troisième cycle qu'on fait avec Faber et Maslisch sur les adolescents qui existe. Voilà, c'est pour dire...
C'est pour la suite.
Voilà, c'est pour la suite.
Sophie, est-ce que vous avez autre chose à nous recommander ?
Eh bien, alors bon, effectivement, les lectures Faber et Maslisch, elles sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Il y a aussi Isabelle Fiozac avait parrainé une collection qui s'appelle Parents Plus, je crois, et elle a parrainé une personne qui s'appelle Elizabeth Crary, qui a écrit Arrête d'embêter ton frère, laisse ta sœur tranquille, qui est aussi intéressant, qui propose une autre méthode. Alors, c'est la méthode STAR, qu'elle propose, qui tranche aussi souvent avec notre vision très psychanalytique et très freudienne qui est assez classique en France, donc je trouve vraiment ces apports intéressants.
Merci beaucoup, Caroline, d'être venue témoigner des conflits dans la fratrie de vos enfants et de la manière dont vous gérez tout ça. Un très grand merci, Sophie Baudry, pour tous les conseils que vous nous avez donnés. Je rappelle que vous êtes psychologue, animatrice des ateliers Faber et Maslisch pour les parents et les professionnels. Un grand merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.